tu verras qu'il faut. Écoute-le, ouais, je suis toi, tu vas voir. Et tu vois, il faut éviter, tu vas voir, t'arrives, t'as compris.
Tous les bruits parasites.
Si tu fais ça là,
il capte. Ouais, c'est incroyable comment ça amplifie le truc.
Ah oui, oui, lui, il a enregistré tout là.
Il y a quelques. Voilà. C'est.
Il faut éviter quand vous allez poser.
Vous les gardez alors.
On va prendre la plaque.
Non, mais. Non, mais ça me fait
mal. Ah, tu vas entendre des grenouilles tout à l'heure.
On entend, un peu la boue. Mais bonjour à tous, ça y est, on est sur un nouvel épisode de Tour dans le Monde. Et aujourd'hui, on est en Guadeloupe, on n'est pas sur un plateau, on est dans une petite villa sur la hauteur de Dée. Et voilà, on est reçu.
On est chez Gilles Stéphane, hein, voilà, de Boomerang.
Geneviève et Stéphane de Boomerang. Et ils nous accueillent chez eux aujourd'hui. Et maintenant, on va les laisser se présenter à vous.
Donc, Gigi et Steph, Boomerang, voilà, on a rencontré Manu et Karine déjà depuis un petit moment, puisqu'on s'est rencontrés aux Canaries, et on vient de se retrouver après un périple qui nous a fait traverser l'Atlantique. Le capitaine saura mieux en parler que moi.
Oui. T'as pas écouté les autres podcasts en fait. Faut se présenter, âge et tout. Alors, moi c'est Steph, j'ai 53 ans depuis quelques jours. Voilà, Geneviève, je sais plus, t'as quel âge?
Oh bah moi, je vais bientôt avoir 51, dis donc.
Ouais, 51. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. Donc c'est clair que. Bah, je vois tout de suite la question qui va être posée par Créa, ça va être de dire mais comment ça se passe la sexualité au bout de 33 ans de couple? Non, je blague bien entendu, on attend que les enfants se couchent et puis on en reparlera plus tard. On a deux enfants justement, Camille qui a 14 ans et Charles qui a 10 ans. Juste pour présenter, on a déjà fait un tour de l'Atlantique en 2019 qui s'était arrêté avec le Covid. On est rentré en France, en Bretagne, on a passé 2 ans sur notre bateau et on est reparti dès que c'est rouvert.
Ça fait faire bientôt 5 ans quoi, qu'on
et
est
donc,
sur le bateau.
Voilà, ça fait 5 ans qu'on est sur le bateau, entre temps, mais on va y revenir certainement plus tard. On a décidé aussi de se poser à terre en Guadeloupe.
Voilà, c'est pour ça. Donc là, on est chez vous en Guadeloupe, mais Boomerang est dans la baie en bas de Dée. Oui. Parce que vous partagez votre temps entre le bateau et la maison ici.
Ouais. Ouais.
Alors, Camille, elle a plutôt presque 15 maintenant, hein, parce oui. qu'elle va avoir 15 dans 15 jours. Et Charles a eu 11. Donc comme disait Stéphane, c'est une aventure familiale qu'on a vécue deux fois parce qu'on a transaté en 2019 et là les enfants étaient plus jeunes. Pour eux, c'était aussi un challenge de repartir, sachant qu'aujourd'hui on a affaire à des ados. Donc c'est pas tout à fait la même donne.
Hein. Ouais, donc vous devez voir vraiment la différence vous, entre avoir des enfants jeunes et adolescent après quoi,
un voyage, premier voyage, en gros des bateaux avec des enfants de l'âge de Charles et de Camille, à cette époque-là ils avaient quel âge? Ils avaient
4 ans de moins.
Voilà, ouais. La Guadeloupe il pleut.
Ouais. Parlez pour moi parce que je pense qu'on entend bien les voix.
On va reprendre là, entre les grains. Il y a des grains en Guadeloupe alors.
Ouais, on n'aime pas embêté avec la pluie là ce soir quoi. Mais bon. Donc on a été.
On en était donc à Charles alors... qui avait peut-être 6-7 ans quand il a fait la première traversée et Camille qui était. En gros, il y avait CP, CE1 et CM2 quoi. Donc des enfants de leur âge, il y en avait dans tous les bateaux. Donc c'était très facile. De trouver des copains à bord des autres bateaux partout où on a transaté. Et puis, comme on a fait le parcours classique à savoir Cap-Vert et on a chuté au Marin cette année-là, c'était le parcours que tout le monde suivait en famille. Là, deuxième voyage, c'est partir avec des ados qui ont connu pour Camille le collège, qui avaient des copains, voilà, donc c'était un peu plus dur. Et c'est vrai qu'en plus, on n'a pas pris le parcours classique, puisqu'on est passé par le Cap-Vert, bien sûr, mais on est allé ensuite au Brésil, on a fait la Guyane et on est remonté par le
Sud. Où il y a moins de famille, en fait.
Voilà.
Et bon, après, il y a d'autres avantages aussi, parce qu'ils repartaient en voyage, ils n'étaient pas en train de découvrir, ils redécouvraient, ils avaient grandi, ils avaient l'expérience de 10 000 milles la première fois, quasiment, ou 9 000, je ne sais plus. Et ils nous ont aussi, notamment Camille, elle a assuré des quarts de navigation qu'elle n'assurait pas, bien évidemment, la première fois. Quoi.
Et donc, au final, ils ont rencontré, contre toute attente, des enfants de leur âge. Et pour Charles, c'est assez facile pour Charles, encore à 11 ans, c'est facile. Mais même Camille, qui est mature, elle a vraiment rencontré un petit peu partout des copains de son âge. Et donc, ça le fait encore bien, malgré tout.
Mais bon, on a été un peu vite quand même, parce qu'on est déjà sur le deuxième voyage. Qu'est-ce qui vous a amené comme ça au voyage bateau? Déjà, est-ce que vous étiez marin avant de partir?
Bah, pas trop. Et toujours pas d'ailleurs. Non, en fait, bah, on est bretons, donc on a vécu sur le littoral comme tous les bretons, quoi. On a très très peu fait de voile quand on était gamin. On a fait un peu de dériveur, un peu de catamaran de plage, mais voilà, quoi, ça s'est arrêté là. Et en fait, on a redécouvert ça tardivement, puisque ça fait 12 ans, 13 ans. Donc on va dire à 40 ans, parce qu'il y a eu d'autres choses de faites avant de se lancer dans ce voyage à la voile.
Ouais, toi c'est ton parcours à un sport automobile, un sport mécanique, quoi.
Ouais. Mais oui, alors donc avant, y a eu une période, parce qu'on se connaît, comme je vous ai dit d'ailleurs, depuis 33 ans, donc ça commence à dater un petit peu. Donc il y a eu une période un peu commune, même si on ne se connaissait pas, mais c'était la haute montagne, où on a pratiqué beaucoup de haute montagne. Moi j'avais pas 16 ans, donc... où il y a eu des sommets jusqu'à 3700, 3800 mètres. Ils étaient pourtant interdits, ces sommets, aux adolescents, mais j'ai eu l'occasion d'en faire. Et puis après, donc toute la période de sport automobile, où j'avais un rêve. Autant le voyage à la voile, c'est pas un rêve, en ce qui me concerne, peut-être plus pour Geneviève, mais en ce qui me concerne, c'était pas du tout un rêve. Mais autant le Dakar, moi, quand j'étais gamin, je suis né en 71, donc 4... je ne sais plus quand est-ce que a commencé le Dakar, mais 79, un truc comme ça. Je regardais, comme tout le monde, les images à la télé, et je dis un jour je le ferai. Et puis ce jour-là, il est arrivé bien tardivement, puisque je l'ai fait beaucoup plus tard, mais on l'a fait en 2005. On a d'abord fait le Rallye du Maroc en 2003. Il y a eu tout un cheminement, en fait. Avant de faire de la compétition, je voulais être au top, je voulais vraiment être à niveau. Donc on avait parcouru 100 000 km en Afrique du Nord. Toutes les vacances, c'était fait pour ça. Et c'était fait pour ça. C'était fait pour gagner l'expérience et être... opérationnel le jour où on s'en serait en course.
Avec des superbes voyages, notamment en Libye. Tu l'as fait deux fois. Il y a des synergies entre le désert et la mer, en fait. Mmh.
Les trois éléments sont... En fait, il y a beaucoup de synergies, effectivement.
Mais donc, c'est une compétition automobile, hein, avec Geneviève comme copilote.
Alors, on s'est rencontrés en école de commerce, on avait une vingtaine d'années. Après, il y a eu une période où on s'est séparés. J'étais trop con, donc elle essayait d'aller chercher quelqu'un de moins con, mais elle s'est rendue compte que les autres étaient encore plus cons, donc elle est revenue vers moi au bout de 5 ans.
Alors le podcast d'un tour dans le monde n'est pas là pour régler les comptes.
Ah mais ça fait partie d'une histoire de vie, quoi. Et puis on s'est retrouvés en train de
non, on a un fait jour. Un petit tour chacun et c'était bien. Et on s'est retrouvés c'est une blague. Où moi je m'étais mise à l'escalade, j'étais sur Paris et j'avais... fait mon bout de chemin, et Steph, lui, qui roulait beaucoup trop vite avec les voitures trop puissantes et qui avait eu je sais pas combien de cartons, s'était mis
dit faut que tu roules en 4x4 parce que tu en 4x4 tu vas voir, tu vas rouler moins vite, voilà. Tu vas rouler à 70-80 km/h. Et puis quelques années après, en fait, ce copain qui m'a dit tu fais du 4x4, en fait, il m'a mis le pied à l'étrier pour me lancer vraiment dans le 4x4 et donc la compétition. Et puis après, on s'est retrouvé avec Geneviève au milieu de la Libye, on venait d'abattre une chèvre. On l'a faite au barbecue dans plein désert entre le Tchad et l'Algérie.
Abattre.
Non.
Percuter
avec la voiture.
Non, on l'avait acheté dans un village, il l'avait tué. On l'a laissé sur le toit faisander pendant 2-3 jours. Et puis on l'a bouffé avec plein de copains, plein de gens qui étaient dans le raid à l'époque en Libye. C'était encore à l'époque de Kadhafi. Et puis on s'est retrouvé ce soir-là, je crois que la chèvre a été déclencheur de notre nouvelle aventure de couple. Et puis voilà, donc la compète, on a fait pendant de 2003 à 2009. Et on a fait des belles choses, on a fait le rallye du Maroc, on a fait le Dakar en 2005. Et on a fait une super course qui est moins connue du grand public qui s'appelle la Transorientale, en fait l'ancien Pékin. Et là on a traversé... Russie, Kazakhstan, Chine, 18 000 km, un mois de course, c'était juste incroyable. Et ce qui a été dément dans cette histoire de sport automobile, c'est que ça nous a appris à... Bon, c'était l'aventure, comme on peut la vivre en bateau, mais on a surtout découvert en fait tout l'aspect qui est primordial, c'est-à-dire la gestion du matériel, l'entretien du matériel, en fait, que tous les problèmes, pour gérer tous les problèmes qu'on peut avoir aussi bien en rallye raid, parce que c'est une épreuve d'endurance, donc il faut éviter de casser, il faut préserver sa machine. Et j'ai exactement la même approche dans le monde dans le voyage à la voile, c'est que c'est zéro problème. Il faut limiter les problèmes parce qu'on en a tous, on dit un problème par jour en général.
Il y a toute la logistique des pièces détachées.
Et puis la logistique
de la
aussi
même
des
façon,
pièces détachées, ouais, effectivement.
Il y a la logistique de la communication, on a le site, on avait déjà un site à l'époque, etc. etc. Enfin, il y a le financement, enfin, il y a plein de synergies. Ouais. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est vrai qu'on on a rencontré quand même pas mal de bateaux qui avaient un peu cette expérience de compète, soit en moto, soit en 4x4, et souvent, en tous les cas, en tout terrain. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est donné à fond hein, sur ces trucs-là. On n'avait toujours pas les gamins. Bref, Steph, il me dit à un moment donné, il va falloir se décider. J'avais 36 ans. Et quand on a fait la transorientale, une semaine avant de partir, en gros, j'ai appris que j'étais enceinte de Camille. Donc, on a fait la transorientale, hein, c'était super. Hein, ça part de Paris, ça va jusqu'à Pékin, en passant par Saint-Pétersbourg, le Kazakhstan, une boucle assez incroyable. On a eu Camille en février. Et puis ça commençait et on continuait la compète auto, mais plus en mode tout terrain, style des 24 heures.
Parce qu'en fait, la discipline qu'on pratiquait, au-delà du rallye raid comme le Dakar qui est super connu, c'était l'endurance tout terrain. Donc les courses d'endurance et les courses de 6 heures, des 24 heures, elles existent dans toute l'Europe. Et en fait, moi j'étais à une croisée des chemins où je ne savais pas si... il fallait que je continue en tant qu'amateur ou que je devais basculer en tant que professionnel. Donc j'avais mis en place une structure semi-professionnelle où je commençais à avoir des clients et puis c'est devenu le bazar, du stress supplémentaire, bref, trop de pression. Et le 2 décembre 2009, parce que j'en parle assez facilement, mais j'avais déjà anticipé. Mais...
Pas qu'à cause de ça.
Non, pas
trop de pression.
De ça.
Donc
oui, parce qu'il y avait la vie personnelle, professionnelle, passionnelle, etc. Il y avait plusieurs vies quoi, en fait, dans toute cette histoire. Et le 2 décembre 2009, je rentre d'une course qui s'appelle les 24 heures du Portugal, où c'était très très mal passé, on avait cassé, etc. Et puis je rentre en France et je fais un infarctus, donc massif, grosse douleur, des séquelles qui sont toujours présentes. Et je me dis, mais non, la vie, elle est pas. C'est pas ça la vie. Et Camille avait 9 mois à l'occasion, et puis à ce moment-là. Et puis j'ai dit non, la vie, elle, c'est pas ça. La vie, elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être, comment dirais-je, pour qu'elle soit intense, remplie, etc. Et il y avait cette histoire du bateau parce que dans ma tête, le bateau, c'était le seul espace de liberté qui restait.
On avait déjà acheté aussi
on avait un
le
petit
Hobby 421 et on s'éclatait à faire du raid, la même chose qu'on faisait dans le désert. On le faisait sur les îles, en fait, Belle-Île, Watt. Et dit que c'était notre terrain de jeu au départ de la presqu'île d'Orlis.
Parce que quelques mois après l'infarct, on a acheté. Donc on avait ce Hobby 421 qu'on avait pratiqué un petit peu avant que j'ai des problèmes de santé. Et puis après, on a basculé sur un deuxième catamaran, un Aventura 28, avec lequel on a beaucoup, beaucoup navigué en côtier. Et puis après, on a été obligé de construire notre bateau. Alors quand je dis été obligé, c'est parce qu'il y a une grosse histoire qui est arrivée. On a commandé un bateau, le chantier a déposé le bilan. Donc il fallait, c'était un peu compliqué. On avait toutes les pièces en puzzle. Et puis on n'avait aucune compétence. Et là, on avait versé 40 000 euros. Et puis on s'est dit, mais allez, qu'est-ce qu'on fait? On fout le feu à 40 000 balles.
On fait
un gros feu de la Saint-Jean.
Voilà, feu de la
ou
Saint-Jean.
Alors on apprend. J'avais le temps puisque j'étais j'étais sans activité, en convalescence. Et je dis, on aborde. Bah bref, on apprend à construire un bateau.
Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. My son, wherever he lay, his hat was his home.
C'est ce qu'on a fait, on a récupéré les pièces, on a mis 5 ans pour le terminer, ce bateau-là.
Et l'idée, c'était. Trois camions de pièces, enfin, ouais, de pièces détachées. Voilà, on a loué.
Rapatrié en Bretagne, etc.
Voilà, on a trouvé un super endroit avec un pote de, qui était un partenaire du Dakar d'ailleurs, professionnel
du composite.
Qui a été super sympa, Manu. Et Manu nous a prêté un bout de terrain sur lequel on a mis une tente de maraîcher. Un tunnel de, je ne sais plus, 16 mètres sur 7 ou un truc comme ça. Ah, et on a construit petit à petit, on a mis les bouts à bout. Enfin, c'était un truc de malade. Hein. Et 5 ans, voilà, on a tout fait de A jusqu'à Z. Effectivement, on n'a pas construit les bouts au départ. Mais,
assemblé, on a fini. Après, on a géré la motorisation, l'hydraulique, l'électricité, bref, tout ce qu'un bateau doit comporter.
C'est quoi comme bateau alors?
Alors c'était parce que,
on n'a pas dit ça.
Mais on va rebondir quand même
là-dessus. Parce que t'es allé vite quand même.
Nous, on est quand même connus, entre guillemets, Piero Tabasco, la fameuse chaîne YouTube, nous avait chopé au Cap-Vert et puis on avait rigolé. C'était Monsieur et Madame Le Rouge. Je ne suis pas Monsieur et Madame Le Rouge, mais effectivement, on a un catamaran Le Rouge. Le premier catamaran qu'on a construit était un Le Rouge. Le deuxième qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un Le Rouge, parce qu'on est fan de cette marque. Et de cet architecte. Et de ses bateaux, parce que ce sont des super bons bateaux. Et puis voilà quoi. Et donc effectivement le bateau sur lequel on a travaillé pendant 5 ans, c'était aussi le Rouge.
Alors ce que disait Stéphane tout à l'heure, il disait qu'on n'avait pas du tout le projet de transater. Hein. Quand on a construit notre bateau, il faisait 10 mètres. Donc c'était, il avait tout d'un grand parce qu'on avait la plancha, on avait un mini congélo, on avait tout en mini, comme dans la pub. Il avait tout d'un grand. Avec une barre franche, des jolis petits sièges béquets, enfin tout très bien, une petite voile bien... Alors un bateau, une bombe, et on part avec nos deux enfants et on se dit, on va faire un petit voyage test et on va aller en Espagne. Donc
on traverse le Gascogne
et là on se fait peur. Sur le dernier tiers du trajet, des bonnes vagues, beaucoup de vent, un string devant et les trois riz pris dans la GV et on avançait comme une fusée et on tapait parce que le bateau il est petit, les vagues sont grosses et que finalement on tapait. Bon, les enfants, pas de problème, ils dormaient. Par contre, avec Steph, c'est est-ce que tu es sûr que tes strates vont tenir? Est-ce que tu es sûr que tes strates
vont
tenir?
Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, quand on passe 5 ans sur un bateau comme ça et qu'on fait ça
en
apprenant, parce qu'il y a quand même un pro qui nous a transféré son savoir-faire. Mais
on a flippé quand même.
Et puis,
on est arrivé.
On a passé un mois et demi en Espagne.
Nickel.
Ouais, nickel.
Le bateau a pas bougé.
Mais par contre, on s'est dit, si on veut aller plus loin, c'est pas la peine.
10 mètres sur un catamaran, ouais. C'est comme si on prenait un monocoque de 8 mètres quoi, ou 7 mètres, quoi. Donc c'est quand même limite. Quoi.
Et donc du coup, Steph a regardé ce qu'il y avait à vendre en Le Rouge.
Et puis on voit un bateau en annonce en Allemagne, en Hollande précisément, propriétaire allemand. Et puis voilà, de fil en aiguille.
Donc Steph me dit appelle-le. Et puis on a pris rendez-vous. On est rentré de notre petit périple avec les enfants. On a réfléchi
toujours,
un
le
peu.
Rouge, quoi,
hein. Ouais, toujours voilà. Pareil. Le Rouge, c'était
mais
un modèle
là,
plus
le
gros,
Rouge
quoi.
En plus, enfin, la grosse question, c'est où est-ce qu'on va mettre la plancha? Hein, donc,
oui, mais ça c'est un point sur lequel on reviendra plus tard.
Voilà, parce que
le boomerang c'est
et si en découvrant le bateau, parce que tout le reste on savait à quoi on avait affaire, puisque en fait on se projetait pas mal dans le bateau, donc puisqu'on avait le nôtre et que là du coup c'était plus grand et que c'était globalement le même principe, à savoir que c'est un bateau super spartiate. Il n'y a pas de végrage, il n'y a rien. Le but du jeu, c'est justement qu'il n'y en ait pas. Et qu'un coup d'éponge suffit pour l'entretenir. Enfin, voilà, c'est un bateau simple, léger, efficace et sécure. Du coup, on est parti là-bas et on a flashé. On a flashé avec le proprio, Martins. Et il nous a choisi. Il nous a choisi pour acheter ce bateau.
Ouais, parce que bizarrement, c'est des histoires d'hommes. Alors, effectivement, c'est compliqué à comprendre. Mais on est dans une petite famille, mais il n'y a pas que les Le Rouge, il y a les Outre-mer, il y a les Looping de Luchère, il y a quelques marques comme ça qui sont des bateaux de niche, et en fait ça se fait jamais au hasard. Ce gars-là, quand on a acheté le bateau qu'on a aujourd'hui, on était en concurrence avec un grand navigateur qui a gagné le Vendée Globe, mais c'est vraiment véridique ce que je vous raconte, qui est passé 2 ou 3 jours après nous visiter le bateau. On n'avait pas encore donné notre feu vert. Et puis, Martin, le propriétaire allemand, c'est lui qui a fait son choix. Il avait rencontré les deux couples. Et puis, dans les deux couples, il y avait des choses qu'ils aimaient chez les uns et chez les autres. Bref. Et puis, il y avait cette antériorité de 2 jours. C'est vraiment complètement hallucinant. Et en fait, il a dit non, je vais vous le vendre à vous.
Bah ouais, il savait qu'on en prendrait soin.
Et il nous suit toujours. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que là, on parle de... Là, aujourd'hui même, il y a le premier propriétaire de Boomerang 2. Qui est en Guadeloupe, il est pas très loin de chez nous là, et donc on est en contact avec lui, on est en contact avec le deuxième propriétaire, nous sommes les troisièmes propriétaires de ce bateau, donc en fait c'est une histoire de famille, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les bateaux, etc. Et à chaque fois c'est des vraies rencontres qui sont très intéressantes avec les Le Rouge, mais après...
Donc c'est voilà, c'est le pourquoi du comment de monsieur et madame Le Rouge. Voilà.
Et donc du coup, voilà. Ce bateau, on l'achète. Et puis bah, du coup, on a aussi notre bateau qu'on avait construit. On était encore propriétaire, donc on le met en vente. Et puis 7 jours après, ouais. C'était réglé. Ouais. Il était vendu, etc. Il a été vendu à un super, super gars. Et là encore, on a aussi choisi parce qu'on avait un certain nombre de clients potentiels. Et puis c'est devenu un copain. Et puis c'est lui qui nous a... C'est Gwen là, donc, qui nous a acheté notre premier bateau, celui qu'on a construit. Et c'est grâce à lui qu'on est en Guadeloupe, parce que c'est lui qui nous a dit Stéphane, si tu veux aller aux Antilles, Stéphane et Geneviève, si vous voulez aller aux Antilles, il n'y a que 2 endroits. Il y a les Saintes, parce que je vous connais, je sais comment vous vivez. Il dit il n'y a que 2 endroits, c'est les Saintes et Dieppe.
Et donc, ça a été un nouveau départ avec Boomerang 2.
Ouais, tout à fait.
En 21, c'est ça?
En 2021, tout à fait. Pardon, 22. Juillet 2022,
on repart
de Bretagne Sud, de Vannes.
Avec Boomerang refitté impeccable. Voilà.
Ouais, mais entre-temps, il faut quand même parler d'un truc aussi.
Voilà.
C'est qu'on rentre, à cause du Covid, on s'est retrouvé bloqué, donc 2 mois en Guadeloupe, mais sans connaître la Guadeloupe, puisque à l'époque, on ne pouvait pas visiter patati patata. Donc, on décide, parce qu'il y avait le Covid, c'était compliqué de trouver des équipiers, parce qu'il y avait toutes ces notions de il fallait que les équipiers soient sains, bien évidemment, pour pouvoir embarquer, pour pouvoir retransater le retour. Donc, on décide de mettre Boomerang sur cargo. Donc là, ça a été toute une histoire, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, on a foutu Boomerang 2 sur le cargo, retour en France. Et puis, on récupère le bateau à Brest au mois de juin. Et au mois de juillet.
Non, parce qu'il faut quand même, tu oublies de dire un petit truc, oui. C'est que quand on est parti la première fois, on a donc vendu à l'époque notre maison, le moulin, le premier bateau pour acheter le deuxième. Et juste avant de partir, on avait racheté une maison qu'on avait refitée aussi pour la mettre en location. Et en cours de voyage, Stéphane a dit, finalement, ça me stresse d'avoir une maison en France, d'avoir un fil à la patte. Donc, on vend la maison juste avant le Covid. Et donc, effectivement, quand on est revenu avec Boomerang en France, il a fallu livrer, entre guillemets, la maison, etc., déménager, sachant qu'on n'avait pas de domicile. Notre domicile, ouais,
c'était le bateau. Donc, pour éviter des problèmes sur une transat retour, pour éviter plein d'autres problèmes, bref, garder l'intégrité du bateau, on a décidé de le foutre sur cargo, comme beaucoup d'autres équipages, alors qu'ils n'avaient pas forcément l'idée au début, mais ça a quand même été le cas. Et donc, on s'est retrouvé à récupérer le bateau en Bretagne, et puis à vivre dessus pendant deux hivers à Vannes. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en pleine interview. On avait passé un week-end fabuleux avec une fille qui est Cécile, qui est journaliste à Voile Mag, qui faisait un reportage sur nous. Et dans ce fameux week-end, on a tapé un autre bateau. Donc il y a eu un abordage en mer. Donc il a fallu, avec beaucoup de réparations, mais quand je dis beaucoup de réparations, c'est vraiment des grosses réparations. Donc il a fallu qu'on remonte un chantier, qu'on répare Boomerang 2, afin de pouvoir repartir quand les feux étaient au vert. Et donc on a repassé 5 mois de chantier, 4-5 mois, reconstruit le bateau intégralement. Et puis, par contre, là, on le connaissait par cœur. Hein. Autant dire que...
On avait fait
clé 17, clé 19, tac, tac, tac. Allez, vas-y, t'envoies. Non, mais c'est cool parce que en fait, c'est aussi important de connaître son bateau. Et puis, voilà, quoi. Et ça avait beaucoup de résonance par rapport au sport automobile aussi, parce qu'il fallait se démerder. Il y a beaucoup de réparations, parfois, qui sont à l'africaine, pourvu que ça tienne. Voilà.
Ouais, et puis là, on a fait des super améliorations. On a gagné en poids, on a gagné en performance, enfin, le bateau, c'était plus le même. Hein. Pour la deuxième transat et le deuxième voyage, franchement, là, on est sur un bateau qu'on connaît, parce qu'on s'est amusé dans le golfe quand même, un petit peu, aussi.
Ouais.
Autant, tu posais la question tout à l'heure, Manu, en disant, est-ce que vous saviez naviguer? Mais nous, en fait, on avait construit un bateau, on avait fait des ronds dans l'eau avec des petits bateaux, et quand on a été prêt, on n'avait jamais fait de tour avec notre bateau, là, le gros, à part l'avoir descendu des Pays-Bas pour le ramener. On était accompagné dans Skipper Pro pour le ramener en Bretagne et travailler dessus. Honnêtement, on est parti, on ne le connaissait pas du tout. Et c'est un bateau physique. Je suis pas une dinette, mais quand même, hein, quand tu ne serait-ce que monter la GB, c'est un bateau physique à plein de niveaux, avec des réglages un peu particuliers qu'il n'y a pas forcément sur d'autres.
Il y a un mât tournant, c'est ça?
Ouais, tu as un mât rotatif.
On est en train de faire de la pub pour les lieux rouges, là.
ouais, mais attends, pour le nôtre, mais en fait, il n'est pas à vendre.
Il n'est pas à vendre. Pas pour l'instant.
Quoique. Non.
Non, et puis voilà, on est reparti en deuxième voyage, comme tu disais, Manu, et puis les choses étaient complètement différentes, l'appréhension du premier voyage. Parce que moi, je répète, je ne suis pas un marin. J'aime pas la haute mer, les grandes navigations. Ce que j'adore, c'est de faire 20 000 d'un mouillage à un autre, vu des gens au premier mouillage, les revoir au deuxième, voir des nouveaux au deuxième. Bref, c'est plutôt le côté humain qui m'intéresse plutôt que le côté, on va dire, navigation. Et je suis encore, on arrive quasiment pas loin de 20 000 milles avec le bateau, donc c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est toujours comme ça.
Mais première transat, on divorçait.
Ouais, on divorçait. Mais bon, ça, c'est des histoires.
Si, c'est important de le dire, parce que si d'autres. Et on en parle assez facilement aussi, c'est parce que c'est pas une expérience si simple que ça.
C'est pas neutre, quoi.
C'est pas neutre. En plus, on a fait une transat qui était juste tout pourrie au niveau du temps, avec une mer croisée, enfin, des conditions un peu fortes et des grains, ce qu'on n'a pas du tout eu cette année. Et puis, comme tu disais, on ne maîtrisait pas le bateau, donc Steph était capitaine stressé avec tout le poids de... Voilà, et moi, j'avais les gamins, les trucs, et j'avais l'impression de faire 10 000 trucs aussi. Première transat, c'était chaud au niveau couple. Quand on est arrivé pour fêter Noël, là, on se posait des questions. C'est vite passé, hein. Parce que les Caraïbes aident quand même un peu à faire passer la pilule, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Et là, quand tu maîtrises ton bateau, que tu le connais un petit peu, je pense que, tu vois, s'il y a des gens qui doivent partir demain, connaître un peu son bateau, ça permet aussi de profiter du voyage, quoi. Donc, ça, c'est bien. Puis les enfants, ils connaissaient aussi ce qu'ils allaient avoir. Camille, tiens Camille, puisque tu passes par là, tu veux pas dire un petit peu ce que tu faisais avec l'écart entre premier voyage, deuxième voyage?
Ah ben ça n'a pas marché, il va falloir que tu te rapproches parce que... En bref, en tout cas, attends, par obligation... Ah, elle arrive, elle a décidé.
Camille qui va nous parler de son vécu. Bonsoir.
Camille qui nous rejoint.
Alors, c'était quoi la question?
Mais en fait...
C'est comment t'as vécu le premier voyage et le deuxième voyage, la première transat, deuxième transat? Là, t'as presque 15 ans aujourd'hui, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Alors, premier voyage, j'étais encore assez jeune, donc j'ai pas trop réalisé. Pour moi, je voyageais, tout ça. J'ai pas trop pris part à tout le côté bateau. Mais plus dans le deuxième voyage, je me suis un peu intéressée. J'ai fait des quarts, j'ai essayé de participer à bord, tout ça. Et c'est vrai que dans le premier voyage, je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait. Et voilà. Et là, j'ai plus réalisé, j'ai plus pris en compte aussi le fait que... parfois, en tant qu'adolescent, c'est un peu plus dur de quitter la vie, entre guillemets, normale que les gens vivent en société en France, par exemple. Et de quitter tous les amis, quitter tous les repères, tout ça. Et quand t'es seul dans un bateau, il faut t'occuper. Et tu trouves pas toujours ce que tu dois faire, tout ça. Bon, t'as les beaux paysages et ça te rassure. Ça,
les rencontres aussi.
Voilà, tu rencontres des gens aussi.
Les langues.
D'autres, voilà. Les langues aussi, ouais, effectivement.
Ça vous a ouvert sur les langues, la pratique des langues,
ouais,
quand même.
Vrai, exactement. C'est mon expérience.
Et c'est pas fini, tu continues.
Et voilà, et là on est reparti et puis je vais voir encore autre chose. Et vivre encore autre chose en étant un peu plus... Voilà.
Merci Camille pour ce témoignage.
Le choix qu'on a fait justement par rapport aux enfants et en voulant tenir compte du fait qu'il y a ce besoin d'être socialisé aussi, d'être en contact avec d'autres jeunes et pouvoir tisser en fait des amitiés durables, c'est qu'on s'est dit on va aller s'installer en Guadeloupe, donc on a acheté cette maison à Dieppe comme on le disait, et les enfants sont scolarisés une partie de l'année en Guadeloupe. Sachant que nous, on avait aussi envie de poursuivre l'aventure de découverte. Alors, pas forcément de la voile pure, parce que c'est pas notre délire, en fait. Évidemment, on aime bien naviguer, on aime bien le rouge et on aime bien avancer. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le voyage et la rencontre des gens. Et donc ça, on ne voulait pas sacrifier cette partie-là. Donc du coup, on va dire que cette maison, c'est notre résidence principale. Mais on y vit en fait que dans la période cyclonique, et en dehors de la période cyclonique, on la loue et nous on continue le voyage. Donc les enfants
dans la mer des Caraïbes, quoi. Voilà. Il y a tellement de choses à faire dans la mer des Caraïbes, on pourrait y passer 10 ans qu'on n'aurait pas fait le tour. Quand je dis la mer des Caraïbes, c'est le Guatemala aussi, c'est le Belize, c'est le Mexique, les grandes Antilles. Ben, bref, il y a tellement de choses. Pour l'instant, c'est notre choix. Après, parce que au tout début, on s'était dit qu'on irait jusqu'en Polynésie. Pour l'instant, on a mis ça de côté. On a surtout mis de côté le fait d'avoir un programme, parce qu'on s'est aperçu que c'était hyper contraignant et il fallait avoir une certaine liberté. Si on était parti en voyage en bateau, c'était justement pour avoir cette liberté.
De toute façon, le programme, il s'écrit sur une.
Ah, il s'écrit sur quoi?
Sur une.
Sur une
plage de sable. Et il s'efface à la marée montante. Ouais. Je ne sais plus comment tu le dis, mais.
Voilà. Le programme s'écrit sur le sable à marée basse.
Voilà. Mais, ouais, mais c'est vraiment ça, en fait.
On est tous confrontés à ça, en fait.
Un petit clin d'œil à Van Uyli.
Ouais. Il faut être breton pour comprendre.
Chez Boomerang, il y a quand même un fil conducteur.
Ouais, voilà, c'est ça que je voulais rebondir. Parce que, comme vous connaissez, quoi, c'est quand même votre...
Côté épicurien.
Ouais, côté épicurien vraiment, quoi. Et vous aimez découvrir les bons produits des coins que vous traversez.
Ouais.
Les mettre en valeur.
Parce qu'en fait, on a donc...
On a eu la passion de l'automobile, des projets, etc. La passion du voyage. Mais depuis qu'on se connaît, quand même, il y a un fil conducteur. Ma grand-mère disait, si tu cuisines bien, tu garderas ton bonhomme.
Donc pour l'instant, c'est le cas.
Peut-être pas tort. Mais en tous les cas, voilà, c'est la cuisine. Et c'est vrai que la cuisine, on a toujours bien mangé. La cuisine dans le voyage, en fait, c'est un moyen de rencontrer des gens.
Voilà.
Donc, au premier voyage, on va dire que on est allé dans des restos, on a mangé plein de trucs qu'on connaissait pas, on a découvert des choses. Et quand ça nous plaisait, moi, j'allais vite fait dans la cuisine, j'allais voir et je demandais, bah, tiens, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et puis, on regarde sur les sites internet, on trouve des trucs, des petites astuces. Et puis, on s'est pris de jeu au niveau de la famille. Donc les enfants avaient leur rôle aussi là-dedans à reproduire ce qu'on avait aimé et à valider et à estampiller marmite de boomerang quand en gros on était arrivé au résultat qui était souhaité.
Ouais, les marmites de boomerang du coup c'est devenu...
Alors, encore ma mamie, moi depuis que je suis gamine, 15 ans, machin, tout ça, je cuisine. Et ma mamie, elle avait, comme pratiquement toutes les mamies, le petit bouquin où elle notait la recette de la voisine machin, de Bernadette ceci, la petite recette découpée dans le journal, et collée, écrite à la mimine. Donc moi, j'ai hérité de ces petits livres-là. Et je me suis dit, c'est vachement important parce qu'en fait, on mange tous les jours, c'est un moment passé en famille, des moments partagés, et il est important finalement de pouvoir transmettre
cet héritage familial. C'est un patrimoine familial en fait, dans chaque famille, on a ce genre de choses, ou dans beaucoup de familles en tout cas.
Voilà.
Mais au-delà de ça, je reviens sur la notion de...
Attends, je vais y venir après sur la notion de
d'accord,
rencontre.
D'accord, ouais. Parce que j'ai un quota de parole, donc je ne dois pas le dépasser. Ce n'est pas mon sujet, en fait. Je n'ai pas le droit de parler de cuisine.
Si, tu veux en parler, mais... Il y a deux choses. Il y a le premier voyage où on a pris et on a construit ce truc-là. Et puis finalement, on est rentré dans le port de Vannes et j'ai eu un peu de temps. Et du coup, je me suis dit, je vais tout compiler. Les recettes qu'on a glanées pendant le voyage. Et donc, j'ai fait ça sous forme d'album photo, mais comme si c'était un petit livre. Et comment dire, je me suis rendu compte que finalement, en le montrant aux copains, quelqu'un arrive, « Ah, c'est bon ce que tu as fait, regarde, c'est ça la recette. » Et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça. Donc le partage, c'est le partage familial. Puis finalement, ça s'est étendu aux copains qui, Et deuxième voyage, et c'est là que Stéphane voulait en venir aussi, c'est que deuxième voyage, je dirais qu'on est allé encore plus loin. C'est-à-dire que là, comme vous, quand vous interviewez ou vous rencontrez des gens, et ben là, on l'a fait aussi pour rencontrer des gens. Donc, on mange un truc qui nous plaît et on va dans la cuisine et on commence à discuter ou on va même chez l'habitant. Au Cap-Vert, au Brésil.
Bon, bref, elle connaît toutes les cuisines de tous les restaurants qu'elle a pratiqué. Elle a récupéré toutes les recettes, on réessaye, on retente. Et puis là, il y a le tome 2, tome 3 de La Marmite du Boomerang qui sortira à un moment ou à un autre quand on aura un peu plus de temps. Alors, ce qui est marrant, c'est que je le dis parce qu'on a un super bateau copain qui utilise maintenant cette méthode de découverte. Et qui lui a ouvert, ça lui a permis d'ouvrir plein de portes. Parce qu'en fait, la cuisine, c'est universel. C'est un truc qui existe dans toutes les populations, dans tous les pays du monde. Et c'est le trait commun, en fait, qui crée du lien et de l'amitié et de l'humanité, etc.
Ouais, un petit peu comme la musique.
Un peu comme la musique.
Mais il y a aussi les copains bâtons hein, qui nous donnent des recettes. Hein. Moi, j'ai un super petit ragoût
de chèvre.
De chèvre que Karine m'a fait et qu'on a appelé le ragoût de cabri, de Cofété, de la plage de Cofété. Ouais. Voilà, c'est des souvenirs aussi de partage avec les copains bateaux.
Et là maintenant, donc tout à l'heure Stéphane, tu disais que vous n'aviez plus de plans, plus de projets à long terme, quoi.
Non.
Mais malgré tout, qu'est-ce que vous envisagez
garder
on va dire cette année, voilà quoi, quel est votre programme
Cette année, on est un peu scotché, là, on est quand même début février, on est toujours à Dieppe parce qu'on a quand même fait Antigua, Barbuda pendant une dizaine de jours, mais le temps est un peu particulier. Donc on attend d'avoir les bonnes fenêtres pour monter vers le nord. Je pense pas qu'on fera un des grosses distances cette année. Donc l'idée, c'est donc, on va dire Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les îles Vierges britanniques, peut-être américaines, peut-être espagnoles, Porto Rico. Et guère plus loin pour cette année, donc on redescendra après. On a aussi un impératif par rapport à l'école des enfants au mois de juin, donc voilà, ça va se caler comme ça.
On va revenir sur la Guadeloupe courant juin, on aime beaucoup les Grenadines, donc on ira passer
deux mois l'été, à peu près. En fait, la période cyclonique débute en juin, donc juillet, août, c'est clair, on est dans les Grenadines. Après, il va falloir faire un choix sur laisser le bateau pour la période cyclonique de septembre à décembre. On ne sait pas encore où. Et puis sinon...
On a la rentrée.
Et puis l'approche, elle est complètement différente parce que maintenant qu'on vit en Guadeloupe, on sait qu'on y est pour un certain temps. Donc, ce qu'on ne fait pas cette année, on le fait l'année prochaine. Donc, tout ce qui est Cuba, République Dominicaine, les Bahamas, Turcs et Caïcos et tout, si
ce
n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine.
Non, on ne veut pas se louper, on veut préparer le truc bien.
On veut passer du temps en fait dans les escales pour pouvoir créer du lien, notamment avec les populations rencontrées.
Ouais.
Donc, il est évident que si on passe 3 jours par-ci, 3 jours par-là, ça ne marchera pas. Et tu sais bien, mais au Cap-Vert, on a passé quand même pas mal de mois et c'est vraiment l'escale qui nous a vraiment plu. Voilà. Il y a le Brésil derrière aussi, mais on a passé un peu moins de temps. Il aurait fallu rester beaucoup plus longtemps au Brésil, mais.
Brésil et Guyane, n'hésitez pas.
Cap-Vert, Brésil, Guyane, faut le faire. On sort des sentiers battus, mais c'est juste magique, quoi.
Et ce qui est important, c'est, moi je dirais, ce qui est vraiment important, c'est d'aborder les pays que l'on visite en ayant vraiment un esprit d'ouverture et comme si on était les invités de ces pays-là. Pas arriver en terrain conquis, par exemple Martinique, Guadeloupe, ça a beau être la France. Nous, on a toujours une attitude de respect aussi
des
locaux, quoi.
On aborde un peu le dernier sujet souvent qu'on essaye de traiter sur ce podcast-là. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux éventuels navigateurs qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas?
On en a déjà donné un petit peu, mais je dirais bien connaître sa monture. Donc ça, si on peut avoir fait quelques ronds dans l'eau avant, c'est bien. Pour être plus serein et profiter et être capable de réceptionner tout ce qui se présente. Être hyper humble très ouvert aux façons d'être qui sont différentes dans les pays traversés sans porter de jugement. Alors ça pour moi c'est essentiel. Aller vers les autres sans hésitation. De toute façon, qu'ils soient d'ailleurs avec la langue française ou même dans d'autres langues. Et dernière chose, ne pas hésiter à prendre son temps, mais beaucoup plus qu'on ne pense. Prendre son temps, pas courir, même si on n'a qu'un an. Je pense qu'il faut prendre son temps, quitte à limiter peut-être les destinations. Il vaut mieux faire bien que vite. Si vraiment vous partez pour un moment, un petit conseil culinaire. Bon, et s'il y a la place dans le bateau, eh ben un congélo, c'est quand même pas mal. Parce que sur les Antilles notamment, le congélo, il permet de faire des économies et de varier un petit peu au niveau nourriture.
Voilà. Ouais, parce qu'on ne sera pas toujours là non plus pour accueillir tout le monde. Hein, donc,
Mais par contre, je sais que vous avez aussi un blog qui est assez riche en informations. Hein, pour la...
Bon, en ce moment, il est en pause le blog. Hein. On s'est arrêté en Guyane, Manu.
Oui, mais il y a quand même pas mal d'informations.
Non, il faut que je m'y remette. J'ai 3 articles en fait à paraître, effectivement. Un article sur comment on a vécu la saison cyclonique, notre première saison cyclonique en ayant le bateau sur place aux Antilles. Parce que ça, c'est quand même très, très, très particulier. C'est le fait de continuer à vivre sur son bateau pendant la période cyclonique ici. J'ai un article aussi sur les Grenadines que je voudrais qu'on a bien découvert parce qu'on est rendu à la 7e ou 8e fois où on y passe pas mal de temps et c'est quand même un endroit magique avec aussi plein de rencontres avec les locaux, il y a plein de choses. Puis le troisième, c'est juste un truc qui n'a rien à voir avec la voile, mais qui peut être intéressant pour d'autres personnes, c'est comment on a vécu nos 4-5 mois d'intégration ici en Guadeloupe à terre. Et puis après, bien entendu, on va redémarrer sur la découverte des îles du Nord, etc. etc. Donc on va continuer le blog, mais là, on n'avait pas forcément le temps, pas forcément l'envie. Pour être honnête aussi, à un moment, moi, je me suis demandé si ça avait du sens. Je sais que ça a beaucoup de sens, mais de partager l'information, mais c'était tellement chronophage que je m'étais posé la question de savoir si on allait arrêter.
Les références de ce blog, comment on peut le trouver ?
Eh ben, c'est boomerang.bzh, bzh comme la Bretagne, quoi. boomerang.bzh.
Bah, super.
Ouais, merci de nous avoir accordé ça.
Bah non, c'est merci de nous avoir proposé cette invitation.
Et tous ces bons moments partagés. Ouais.
Encore hier soir d'ailleurs.
Ah oui, puis il y a un autre petit truc aussi, c'est fête des jeux de société. Ouais. Alors, il y a le TOC.
Ouais, ça c'est la spécialité de Créa.
C'est la spécialité de Créa.
Ah, c'est Créa qui nous a fait découvrir le jeu, bien évidemment. Et voilà. Puis on a fait quoi
le
hier
Kubo.
Soir, c'est le Kubo.
Alors c'est Kubo en fait.
Ouais, Kubo, bon. Bref, un jeu de cartes encore.
Ouais. Partir avec un jeu de cartes.
Voilà.
Ça, c'est super important.
Merci Geneviève pour ce claquement sur la table. Bon, en tout cas, un enregistrement qui n'était pas facile avec la pluie qui tombait assez fort. Mais je pense qu'on sera arrivé à un résultat pas trop mal.
Ouais.
Karine, un dernier mot.
Ben non, moi je vois que c'est du positif. C'est une jolie petite famille en voyage. C'est beau à voir.
Et moi, si j'ai un conseil à donner, si vous croisez Boomerang et qu'il vous invite, attention, il faut aussi être invité.
C'est pas gagné,
c'est pas gagné. Ne dites pas non.
C'est gentil. Hein.
Merci Stéphane, merci Geneviève pour.
Merci Manu et Karine.
Et bonne continuation à vous.
Ouais. Ça marche, merci.
Ça marche, à bien.
À
bientôt, et appuie, repart.
Avec les grenouilles.
Merci, au revoir. Yeah.